Pour cette première carte blanche de Civis Podcast, en cette période de confinement, c'est Dominique Méda qui nous présente la reconstruction écologique qu'il est nécessaire d'opérer dans nos sociétés après le coronavirus. Dominique Méda est une sociologue, directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Elle est aussi titulaire de la chaire Reconversion écologique, travail, emploi et politique sociale au Collège d'études mondiales. Elle a particulièrement écrit sur le thème du travail et récemment sur l'ubérisation dans un livre avec Sarah Abdelnour intitulé « Les nouveaux travailleurs des applis » aux presses universitaires de France. Mais également, et c'est ce dont elle va nous parler dans cette carte blanche, ses travaux ont porté sur la croissance, sur l'écologie et sur les nouveaux indicateurs de richesse. Nous espérons que cette première carte blanche vous plaira et nous permettra collectivement de réfléchir au monde amené à naître après le confinement.
Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui vous parler des rapports entre la crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés et la crise écologique. Nous sommes face à une crise sanitaire très violente qui met nos économies à bas, mais qui n'est sans doute rien à côté des catastrophes en chaîne que risque de provoquer, selon les travaux disponibles, et il y en a beaucoup, que risque de provoquer la crise écologique à venir, avec, nous le savons, des cyclones, des sécheresses qui entraîneront des incendies, la montée du niveau de la mer, la libération du virus du permafrost, toutes conséquences qui accompagneront l'entrée progressive dans cette crise écologique. Je dis que cette crise sera pire car elle entraînera des destructions matérielles massives qui nous épargnent actuellement. Car si des entreprises ferment aujourd'hui et sont en difficulté, le potentiel productif de la France, les infrastructures matérielles de transport, de communication, d'énergie ne sont pas atteintes. Ce qui risque de se produire, c'est du moins ce que nous enseigne les travaux scientifiques dont nous disposons, ce qui risque de se produire au contraire avec la crise écologique sera des destructions matérielles très profondes qui mettront nos sociétés dans un état de désorganisation bien pire que celui que nous connaissons actuellement. Ce que nous montre la crise sanitaire actuelle, c'est à la fois l'état d'impréparation de nos sociétés face à des cataclysmes et surtout, me semble-t-il, la nécessité absolue de bifurquer radicalement dès maintenant et d'entrer dans ce que j'appelle la reconversion écologique. Il faut donc poser dès maintenant, penser dès maintenant et concevoir de façon très précise le monde d'après, de la même manière que le Conseil national de la Résistance, en mars 1944, avait défini un programme extrêmement précis pour l'après-crise, pour l'après-guerre. D'ailleurs, je rappelle que 1944 a été une année absolument très significative du point de vue de la préparation de l'après. Dès 1942, William Beveridge avait produit un rapport essentiel sur le welfare state. En 1944, il y aura à la fois la déclaration de Philadelphie, qui est la nouvelle déclaration de l'Organisation internationale du travail, un autre rapport de William Beveridge intitulé le plein emploi dans une société libre et le programme du Conseil national de la Résistance. C'est donc dès maintenant que nous devons penser précisément le monde d'après. Lorsque je parle de reconversion écologique, je veux signifier qu'il ne peut pas s'agir simplement d'une transition énergétique, de changer d'énergie. Nous devons rebâtir complètement nos économies, mais aussi changer en profondeur nos modes classiques de représentation, d'interprétation, de lecture des événements. Un exemple. Depuis des siècles, nous vivons avec l'idée que la production la plus grosse possible est quelque chose de tout à fait désirable. Ses travaux fondateurs en 1776, Adam Smith nous l'avait indiqué. Depuis la Seconde Guerre mondiale, nous raisonnons à l'aide du système de comptabilité nationale, c'est celui qui nous permet de calculer le fameux PIB, le produit intérieur brut, c'est un système qui est devenu universel et qui constitue une norme absolue. Les performances des pays sont mesurées à l'aune de leur PIB par habitant. Nous sommes devenus complètement drogués au PIB et à la croissance. Or, cet indicateur, le PIB, celui donc qui nous permet de calculer la croissance, le fameux taux de croissance, c'est bien celui du PIB. Ce PIB est une convention. Ça signifie que des gens l'ont construit en poursuivant des objectifs précis. Et cet indicateur, il est devenu non seulement inadapté, mais surtout incapable de donner l'alerte, incapable de braquer le projecteur sur ce qui compte vraiment pour nos sociétés. Par construction, le PIB occulte certaines évolutions. Il compte pour zéro un certain nombre d'activités absolument essentielles. Toutes les activités domestiques et familiales. On considère que cela représente au moins plus d'un tiers du PIB. Mais cela compte pour zéro. Il ne tient aucun compte des dégâts qui sont opérés sur nos patrimoines essentiels, nos patrimoines critiques, c'est-à-dire le patrimoine naturel et le patrimoine social. Il ne tient aucun compte des dégâts qui sont opérés sur ces patrimoines pour fabriquer la production. J'avais commencé à expliquer tout ceci dans « Qu'est-ce que la richesse ?» que j'avais publié en 1999 pour expliquer que non, une société riche n'est pas une société qui a un gros taux de croissance. Une société riche, c'est une société qui parvient à satisfaire les besoins sociaux de chacun, qui parvient à protéger sa population, qui la nourrit, qui la soigne, qui la vêt, mais aussi qui permet de laisser se déployer des individus aptes à la paix, non violents, férus de justice. Donc là, et j'ai poursuivi ces réflexions, par exemple, dans un petit livre intitulé « La mystique de la croissance, comment s'en libérer ?» Dans ce livre, je rappelais notamment que dès les années 70, le fétichisme de la croissance, le fétichisme du PIB a été dénoncé. On pense par exemple aux Meadows qui, dans « Limits to Growth », ont proposé un modèle avec quelques grandes variables montrant que si les choses continuaient ainsi, alors il y aurait effondrement avant 2100. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'un économiste comme William Nordhaus, celui-là même qui a eu il y a 2 ans le prix d'Ig Nobel, William Nordhaus a balayé d'un revers de main ce modèle en disant que il ne nous arriverait rien pour l'instant, que peut-être des problèmes surviendraient avec le réchauffement climatique, mais dans très 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 longtemps. Et à l'époque, William Nordhaus avait critiqué très fortement le modèle des Meadows au prétexte que les Meadows n'avaient pas introduit le prix. Je reviendrai sur cette question. Il faudra en tout cas réfléchir sur le rôle des économistes dans la déréalisation de nos représentations et dans le temps qu'ils nous ont fait perdre pour certains. Dégâts de la croissance et mythe de la croissance verte, je veux dire que reconversion signifie aussi rompre avec un certain nombre d'idéaux affichés par la modernité. Par exemple, l'exploitation sans limite de la nature, la volonté de satisfaire les besoins infinis de chacun, l'incapacité à prendre en considération le collectif. Ces idéaux ont été aggravés par l'irruption du néolibéralisme dans les années 1980, et c'est donc tout notre appareillage idéologique, nos cadres cognitifs, nos représentations, notamment des rapports entre humain et nature, qu'il nous faut aujourd'hui radicalement repenser. Deux auteurs, notamment, peuvent nous y aider. Je pense à Aldo Leopold, qui très tôt a écrit qu'il fallait, dans son magnifique livre « Almanach d'un comté des sables », publié peu après la Seconde Guerre mondiale, qui s'interroge sur le rapport entre humain et nature, sur ce rapport d'exploitation et de conquête qui s'est mis en place et qui propose d'y substituer un rapport de respect et d'amour pour la nature. Je pense aussi aux travaux de Hans Jonas en 1979 qui nous propose de mettre en place une nouvelle éthique. Une éthique, normalement, c'est un guide des comportements qui régissent les relations entre êtres humains. Et bien, Hans Jonas nous dit qu'il nous faut aussi une éthique vis-à-vis de la Terre, et il nous propose ce nouvel impératif: agis de telle sorte que les conséquences de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ça veut dire que nous avons à la fois une responsabilité collective et une responsabilité individuelle, que chacune de nos actions doit être pesée pour comprendre ce qu'elle entraînera pour le reste de l'humanité. Alors, cette reconversion écologique qui entraîne donc un remaniement radical de nos représentations, elle doit également être conçue comme l'impératif de rebâtir toute notre économie. Nous avons à la fois besoin d'un investissement financier massif pour reconstruire les bases mêmes de notre économie, pour, je dirais, passer de l'autre côté, dans l'autre société, cette société nouvelle dans laquelle nous vivrons après. Et pour cela, nous savons qu'il faut des investissements massifs. On parle pour notre pays d'un investissement d'au moins 20 milliards par an, 20 milliards d'investissements publics supplémentaires par an, qui permettraient notamment d'opérer la rénovation thermique de nos bâtiments, ce qui permettrait d'économiser sur la facture de pétrole, de revoir toutes nos infrastructures et notamment de conforter nos infrastructures ferroviaires. Mais il faudra aussi un changement radical de pratique, et notamment nous devrons entrer dans une ère de sobriété qui nous permettra de rompre avec le productivisme et le consumérisme qui ont été les nôtres jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'une pratique de rationnement sera nécessaire. Je pense qu'il faut à la fois adopter à la place du produit intérieur brut d'autres indicateurs macro. Je propose d'adopter l'empreinte carbone et l'indice de santé sociale, un indice calculé par ma collègue Florence Janicatrice, avec laquelle nous avons écrit beaucoup de textes sur la croissance et la post-croissance. L'empreinte carbone, elle permettrait de calculer pour chacun, mais aussi pour chaque organisation et pour le pays, donc elle a le même intérêt que le produit intérieur brut, cette mesure, elle permettrait de calculer ce à quoi chacun a droit, et elle permettrait d'organiser une forme de rationnement qui est la mesure la plus égalitaire que nous pouvons proposer, de manière à ce que nous n'ayons pas d'un côté les très riches qui émettraient énormément de gaz à effet de serre, malgré des taxes, par exemple, et les plus pauvres qui ne le pourraient pas. Il s'agit donc, vous le voyez, d'enserrer la satisfaction des besoins sociaux dans des normes sociales et environnementales strictes. Alors, je voudrais finir en indiquant que tout ceci n'est pas triste, mais qu'au contraire, il s'agit d'un chantier absolument enthousiasmant qui pourrait permettre à nos sociétés de renouer avec une forme, sinon de bonheur, au moins de plus grande justice qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous pourrions obtenir de la mise en œuvre de ce gigantesque chantier un triple dividende. Premier dividende, sauvegarder le caractère habitable de notre planète. Second dividende, deuxième dividende, créer des emplois. Je pense qu'une telle reconversion s'accompagnera d'un besoin de plus de travail humain. pas nécessairement un travail plus épanouissant, peut-être un travail plus dur, mais nous allons devoir développer une quantité de métiers basiques qui nous permettront de vivre, et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui avec les métiers essentiels qui sont mobilisés. Il nous faudra nous nourrir, ça veut dire plus d'agriculteurs, il nous faudra produire les produits essentiels et nous savons que nous devons relocaliser nos productions et augmenter donc les effectifs dans le secteur secondaire. Et donc nous allons peut-être assister à une forme d'anti-déversement. Hein, Alfred Sauvy nous avait parlé du déversement, c'est-à-dire le fait que peu à peu le secteur primaire se déverse dans le secteur secondaire et donc a de moins en moins d'effectifs, qu'il se passe ensuite la même chose du secteur secondaire vers le secteur tertiaire. Peut-être allons-nous être désormais confrontés à un anti-déversement, c'est-à-dire à une augmentation considérable des effectifs du secteur primaire et du secteur secondaire dans des territoires qui devront devenir autosuffisants. Troisième dividende, peut-être des organisations du travail plus démocratiques, des organisations du travail en radicale rupture avec la division internationale du travail que nous connaissons aujourd'hui avec ses très longues chaînes de valeur, des circuits plus courts, des territoires autosuffisants. L'image de la société future qui pourrait nous donner envie de cette reconversion écologique. Dernier point, qui pour mettre en place une telle proposition, un tel chantier qui va évidemment mettre en cause de très nombreux intérêts et donc il y aura de nombreux freins, eh bien il faudrait une coalition aussi hétéroclite que celle qui avait été rassemblée dans le Conseil national de la résistance. Tous ceux qui veulent que cela change, les citoyens, des partis politiques, des syndicats, tous ceux qui souhaitent que le monde d'après soit vraiment très différent.